Beauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus. Dimanche prochain, 29 octobre, ce sera la fête de la Réformation. C'est pour cela que je vous propose d'écouter un exposé du pasteur Paul Sanders, qui est aussi historien et théologien, qui va nous parler de Ulrich Zwingli et Heinrich Bullinger, qui étaient deux réformateurs très fameux et peu connus. Cet exposé a été donné en visioconférence jeudi 12 octobre dernier. Il a été organisé par le secteur édition de la Fondation La Cause, qui vient d'éditer le livre de Paul Sanders qui s'intitule « Quand la réforme entre en scène ». Je vous souhaite une bonne écoute de cet exposé. Nous nous retrouvons juste après.
Parlons d'abord de Zwingli, que j'ai qualifié de réformateur turbulent. Il est né quelques semaines seulement après Martin Luther et son contemporain, en Suisse orientale, dans une famille de neuf enfants. Après l'école primaire et secondaire, il a poursuivi ses études à Bâle et à Vienne, en Autriche. Et c'est surtout à Bâle qu'il a fréquenté des cercles humanistes, influencés par des intellectuels tels que Erasme de Rotterdam. Il est ordonné prêtre à la fin de ses études, à l'âge de 22 ans, et il a commencé sa carrière ecclésiastique dans la ville de Glaris, en Suisse centrale. Il s'engage également dans la politique. C'est quelqu'un qui a, de toute évidence, un tempérament actif. Il devient aumônier militaire aussi, à côté des troupes suisses. Il, en même temps, commence à mettre en doute certains aspects de la doctrine de l'Église catholique romaine, notamment par rapport à la messe. Il remet progressivement en question le culte des reliques, le célibat des prêtres et aussi sa propre conduite morale, qui n'était pas, on pourrait dire, exemplaire. Il devient ensuite curé à Einsiedeln, qui est un lieu de pèlerinage célèbre en Suisse centrale également. Et c'est là, surtout, curieusement, que son engagement en faveur des thèses de la Réforme se précise. Et cela en grande partie grâce à sa lecture des écrits de Martin Luther. En 1519, Zwingli est nommé prêtre principal à Zurich, dans la grande collégiale de cette ville. Et c'est là qu'il commence à prêcher la Réforme. Il adopte la doctrine du sola scriptura, seule l'écriture, de Luther, et prêche selon une trame de lecture continue de la Bible pour sensibiliser les Zurichois aux Écritures. Il continue de remettre en question les enseignements traditionnels de l'Église. Mais là, à cette époque-là, il contracte, comme beaucoup de Zurichois, la peste. Et il frôle la mort. Grâce à cette crise, il vit une conversion très personnelle, centrée sur la grâce et sur la foi, qui ne fait que renforcer ses convictions plutôt intellectuelles. Ce sont des convictions qui deviennent vraiment vécues. Il a débuté ses réformes ecclésiastiques entre 1519 et 1525 en collaboration étroite avec la ville de Zurich. Ses prédications et ses réformes, en revanche, provoquent pas mal de remous au sein de la ville. En 1520, il demande au conseil de la ville que les prédicateurs doivent baser leurs sermons que sur l'écriture seule. Et il obtient gain de cause. En mai 1522, Zwingli se rend à la diète fédérale confédérale, plutôt, à Lucerne, pour plaider en faveur du mariage des prêtres. Pour lui, ce n'est pas une question purement théorique ni théologique, car il vivait en effet avec, en concubinage avec Anna Reinhardt, fille d'une aubergiste zurichoise. C'est Anna qui l'avait soignée pendant sa rencontre avec la maladie, avec la peste, et qui a failli l'emporter. Son mariage n'aura finalement lieu que 2 ans plus tard, et non pas reconnu par l'Église catholique, mais par les autorités zurichoises. J'ajoute entre parenthèses que ces épisodes, sa rencontre avec Anna et son mariage, etc., sont bien, bien dépeints dans la vidéo que je vous recommande très chaudement, très chaleureusement. En 1523, la réforme zwinglienne est publiquement adoptée par le conseil municipal de Zurich. Et cette réforme, quelle est-elle? Ce sont des décisions qui entraînent l'introduction d'un nouveau rite baptismal, un nouveau catéchisme, la suppression des processions, des pèlerinages, des images religieuses, la fermeture des monastères et la réforme de la messe. Quelque chose d'extrêmement conséquent. Ces réformes ont été préparées à Zurich grâce aux prédications de Zwingli, mais elles n'ont pas encore une fois manqué de provoquer des protestations et des remous, non seulement à Zurich, mais dans les cantons catholiques voisins. Mais à Zurich, désormais, les fondements de la réforme sont en place. Au niveau politique, Zwingli poursuit 3 objectifs. Il veut d'abord créer une alliance évangélique, pourrait-on dire, des territoires qui ont adhéré à la réforme. D'autre part, il veut se rapprocher des protestants luthériens. Et enfin, chercher des alliances politiques avec Venise et la France. Tous ces efforts, surtout d'ordre politique, le mènent à une confrontation croissante avec les cantons catholiques voisins. Bien sûr, il est aussi confronté à des dissensions internes, en particulier avec les anabaptistes, notamment ses leaders Konrad Grebel et Felix Manz, à l'origine des disciples de Zwingli, mais qui estiment que Zwingli n'avance ni assez vite, ni assez loin dans ses réformes. Les anabaptistes organisent leur propre baptême d'adultes à Zurich, ce qui entraîne des conflits et des répressions de la part des autorités zurichoises. La vie de Zwingli se termine tragiquement lors d'un conflit armé entre Zurich et les proches cantons catholiques. Les Zurichois subissent une lourde défaite et Zwingli, qui fonctionne comme aumônier auprès de ses troupes, est capturé, écartelé et brûlé. Cette guerre aboutit à ce qu'on appelle la paix de Capel, qui divise la Suisse effectivement entre cantons catholiques et protestants et met fin du coup aux ambitions de Zwingli d'étendre la réforme en Suisse et plus loin. Malgré sa mort prématurée, l'influence de Zwingli perdure dans la tradition réformée. J'aimerais dire quelques mots sur la question des sacrements, qui constitue le point probablement le plus controversé et qui occupe énormément de temps de Zwingli. Il a développé entre 1519 et 1529, pendant une dizaine d'années, une théologie des sacrements qui crée encore une fois beaucoup de remous, non seulement en Suisse, mais en Europe. Il soutient notamment que la scène est simplement un symbole de la mort expiatoire de Christ. Il s'inscrit en faux contre la doctrine de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, cette doctrine qui est chère à Luther et aux catholiques. Il affirme en outre que la messe est un simple mémorial de la passion du Christ et non un sacrifice. Il remet en question le terme latin sacramentum et minimise les sacrements traditionnels, hormis le baptême et la scène. Zwingli affirme que la valeur du baptême et de la scène dépend de la foi du croyant. Cette foi personnelle qui transforme symboliquement le pain et le vin en corps et sang du Christ pour ceux qui croient. De 1524 à 1529, il continue de défendre et de préciser sa doctrine des sacrements et engage des polémiques avec les luthériens, les catholiques et les anabaptistes pour défendre ses prises de position. Tout évident, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de la controverse. Cette divergence conduit surtout à une polémique directe avec Martin Luther et lors d'une rencontre interprotestante dans la ville de Marbourg en 1529, les protestants suisses et allemands discutent sans trouver un accord théologique sur les sacrements. Sur les autres points théologiques, ils tombent d'accord, mais sur ce point particulier, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et cela va changer beaucoup de choses pour ce qui concerne les relations durables entre ces églises. Néanmoins, à partir de 1530, Zwingli est amené à modifier l'expression de sa théologie des sacrements. Bien sûr, c'est lié également à des pressions politiques qui s'exercent sur lui. En effet, il devait défendre ses prises de position devant les autorités impériales et confédérales après ce colloque à Marbourg qui a échoué. Cette question était autant politique que théologique, car elle impliquait la relation entre l'Église et l'État en Europe. Dans les traités qu'il a rédigés entre 1530 et 1531, Zwingli présente une affirmation beaucoup plus positive de la présence du Christ dans la scène, alors qu'avant, il s'efforçait de nier les prises de position de ses adversaires. Mais au fond, il ne concède rien aux positions catholiques et luthériennes. Il adoucit la forme et la terminologie de sa doctrine sans pour autant faire de concessions majeures sur le fond. Sa mort prématurée sur le champ de bataille met fin à cette évolution théologique et d'autres réformateurs, notamment Bullinger et Calvin, devront développer cette doctrine pour ce qui concerne les réformes. Tournons notre attention brièvement sur Bullinger, cet illustre inconnu qui est le successeur de Zwingli à Zurich. Il est de seconde génération, né 20 ans après Zwingli et Luther. C'était le fils naturel d'un prêtre qui vivait en concubinage, selon un arrangement relativement courant de l'époque avec l'évêque de Constance. Bullinger, après ses études primaires et secondaires, étudie à l'université de Cologne, où il a été exposé aux doctrines de Luther, et il a commencé à lire les Pères de l'Église, les écrits de Luther lui-même, ainsi que un Nouveau Testament qui s'est acheté. C'est alors qu'il commence à rejeter la doctrine romaine et embrasser les thèses protestantes. Abandonnant alors sa vocation religieuse initiale dans les ordres catholiques, Bullinger accepte un appel pour devenir enseignant à Cappel, non loin de Zurich, dans une école de moines. Âgé seulement de 19 ans, il accepte ce poste grâce à un arrangement avec l'abbé. L'abbé lui permet de maintenir ses convictions évangéliques et sans devoir pratiquer les formes extérieures de la religion catholique. C'est à cette époque-là que Bullinger rencontre Zwingli et se rapproche encore de la réforme, notamment sur la question de la scène. Bullinger se fiance en secret avec Anna, à Bischmiller, mais il ne peut se marier qu'après la mort de la mère d'Anna, qui s'était résolument opposée à cette union, car elle avait de plus grandes ambitions pour sa fille que le fils naturel d'un prêtre. Bullinger devient pasteur, non loin de Kappel, et prononce sa première prédication. À l'issue du grave conflit qui éclate entre les territoires catholiques et protestants et la mort de Zwingli, Bullinger et sa famille sont contraints de fuir leur ville, Bremgarten, et en 1531, novembre 1531, et ils n'y reviendront jamais. Cet exil marque toutefois le début de nouvelles opportunités pour Bullinger, car il est choisi, contre toute attente, par le conseil de la ville de Zurich pour succéder à Zwingli en tant que pasteur principal de la collégiale de Zurich. Il entre en fonction en décembre 1531, âgé de 27 ans. Bullinger est perçu, à juste titre, comme pacifique et diplomate, contrairement à son prédécesseur. Mais en même temps, il refuse de devenir un pion des autorités politiques qui ont essayé d'exercer certaines pressions sur lui. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce que l'on pourrait appeler la vie quotidienne d'un réformateur. Quelle était la vie quotidienne de Bullinger, qui venait de prendre ses fonctions et qui les a exercées dans la ville de Zurich pendant 44 ans. Dès le début de son mandat, il a dû consolider l'église zurichoise qui était ébranlée par la défaite militaire et la mort violente de Zwingli. Tâche pas facile pour un jeune homme de 27 ans et relativement inexpérimenté. Il a aussi dû gérer des pasteurs individualistes. Il a dû prévenir l'indiscipline morale et théologique et maintenir en même temps les acquis de la réforme zurichoise et défendre la mémoire de Zwingli. Les autorités municipales souhaitaient alors restreindre la liberté des prédicateurs, mais Bullinger résiste et menace de faire une démission collective de tout le corps pastoral s'il donnait suite à leur désir de restreindre cette liberté de prédication. Finalement, un compromis est trouvé qui préserve la liberté de prédication basée sur la Bible, tout en évitant l'implication politique des pasteurs dans la vie de la cité. Bullinger devait à la fois préserver de bonnes relations avec les autorités locales et travailler à protéger la réforme face aux accusations. Il défendait l'orthodoxie théologique de Zwingli et il présentait toujours sa propre mission comme une continuation de celle de son prédécesseur. Quel est le bilan des 44 ans de Bullinger à la tête de l'Église zurichoise? Rassurez-vous, je ne vais pas aller dans le détail, mais juste résumer son action en quelques points essentiels. D'abord, dans ses prédications, Bullinger a commenté la Bible entière et a publié sous forme de commentaires bibliques la quasi-totalité de ses sermons. Il a restructuré l'Église zurichoise en deuxième lieu, en précisant le rôle des prédicateurs ainsi que le rôle du synode, et il a réglé un certain nombre de différends internes. Troisième lieu, Bullinger s'était entouré d'une équipe de collaborateurs talentueux pour renforcer la formation théologique à Zurich et l'enseignement général public qui était sous la responsabilité de l'Église zurichoise. En quatrième lieu, il s'est beaucoup préoccupé de la pastorale pour être proche de ses paroissiens, notamment soigner les malades, célébrer des mariages, assurer la discipline ecclésiastique. Cinquièmement, il a fait preuve d'une immense œuvre d'hospitalité, tant chez lui que dans l'hospitalité offerte par l'Église, en accueillant notamment les exilés protestants de plusieurs pays d'Europe qui vivaient la persécution. Bullinger a laissé en sixième lieu la plus vaste correspondance de la Réforme, plus de 12 000 lettres connues. C'est une source inestimable d'informations politiques et théologiques. C'était une véritable agence d'information à l'échelle européenne qu'opérait Bullinger à partir de sa correspondance. Et dernièrement, Bullinger a publié plus d'une centaine d'ouvrages théologiques importants et son travail théologique a eu un impact significatif sur la consolidation de la Réforme et sur l'unité réformée. N'oublions pas que Bullinger a été exemplaire dans sa vie conjugale et familiale. Père de 11 enfants, il a également pris chez lui ses vieux parents et a recueilli 2 orphelins avec leur mère, puis un autre orphelin par la suite. Anna Bullinger était une femme absolument remarquable, cela va sans dire. Allons passer maintenant à parler un petit peu des relations entre Bullinger et Calvin, ce que j'ai appelé à la recherche d'un protestantisme réformé. Vers le milieu des années 1540, Bullinger et Jean Calvin ont commencé à rechercher une théologie commune entre Zurich et Genève, pour des raisons bibliques, disons, et aussi pour des raisons politiques. Converti grâce à l'influence de Luther, Bullinger était devenu disciple de Zwingli, mais il devait en même temps défendre la position de Zurich face aux attaques insistantes de Luther, qui deviennent de plus en plus virulentes au cours des années 1540. Concernant le sujet épineux des sacrements, le dialogue entre Bullinger et Calvin s'engage en 1546, année de la mort de Luther. Bullinger a envoyé cette année-là, juste avant, un traité inédit, le De Sacramentis, et a sollicité l'avis de Calvin sur ce traité. Le réformateur de Genève s'est permis ensuite de critiquer certaines affirmations de Bullinger dans cet ouvrage. Un échange de correspondance entre eux s'est ensuivi avec 2 visites de Calvin à Zurich notamment, où les deux hommes s'efforçaient de trouver un terrain d'entente, une théologie commune de cette doctrine si importante au XVIe siècle, les sacrements, et notamment la question de la scène. Rappelons que la première édition que l'institution de la religion chrétienne de Calvin en 1536 était fortement influencée par le luthéranisme, y compris dans sa doctrine de la scène. Calvin avait critiqué la doctrine de Zwingli sur les sacrements en essayant que Zwingli avait une position déséquilibrée sur ce sujet. Et il chercha à trouver une position plus équilibrée dans les discussions ultérieures avec Bullinger. 3 années d'échanges épistolaires ont révélé des tentatives de réconciliation entre les deux réformateurs. Et enfin, un accord a été obtenu en 1549, qui s'appelle le Consensus Tigurinus, ou l'accord de Zurich, qui est publié simultanément à Zurich et à Genève en 1549, publié également dans plusieurs langues, le français, le latin et l'allemand. Il aborde divers aspects de la doctrine des sacrements, en particulier la scène, et il a contribué à renforcer les relations entre Zurich et Genève. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, il a suscité également des réactions hostiles des luthériens et une longue controverse entre eux. Bullinger reconnaît l'influence de Calvin sur sa théologie et cela a été réciproque. Disons que durant les années 1536, 1551, Calvin s'était peu à peu éloigné de la théologie des sacrements de Luther, alors que Bullinger s'était progressivement écarté de la première expression de la théologie symbolique de Zwingli. Ils ont réussi à créer une doctrine commune, tout en maintenant des pratiques distinctes dans leurs églises respectives. Et l'accord de Zurich a continué de servir de point de référence entre les deux villes jusqu'à la fin du XVIe siècle, influençant durablement la théologie sacramentale des églises réformées. Il est à noter que la doctrine eucharistique des sacrements, de la scène, originelle, dite symbolique, de Zwingli, n'est plus présente dans les textes confessionnels réformés aujourd'hui. Mais elle continue à exister dans certaines églises protestantes, telles que chez les Mennonites et chez les Baptistes, à travers une ecclésiologie différente.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus et vous venez d'écouter Paul Sanders qui vous a présenté deux réformateurs, Ulrich Zwingli et Heinrich Bullinger. Je remercie la Fondation La Cause d'avoir organisé cette visioconférence le 12 octobre dernier et de m'avoir permis de l'enregistrer. Je vous souhaite une bonne semaine sur Radio Alliance Plus 103.2 que vous pouvez aussi écouter sur radioallianceplus.fr. À bientôt.
Radio Alliance Plus 103.2.